BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Antoine Larigauderie.
Et bienvenue pour cette nouvelle édition de BFM Bourse, format été. Il faut y être en ce moment sur les marchés encore. Un double play sans doute pour le CAC 40 aujourd'hui, record absolu en séance. Il a été signé un petit peu plus tôt aujourd'hui à 8742 points désormais pour l'indice vedette de la Bourse de Paris. On s'achemine sans doute vers un nouveau record de clôture aussi, 8714. On est en progression de 0,52%. La Bourse de Paris en grande forme depuis le début de la semaine. On n'arrête pas de battre des records sur le CAC 40 grâce aux bons résultats, grâce aussi, et c'est un sujet, à la rotation géographico-sectorielle à laquelle on assiste sur les marchés en ce moment. C'est vrai qu'on s'est pas mal allégé sur la tech américaine. Cela dit, jusqu'à quand? Est-ce que justement le train a pas loupé du second semestre? C'est un grand retour de la tech aux États-Unis. Malgré tout, comme pour tout, aussi bien du point de vue de la géopolitique que des changes, que des devises, la tech américaine reste quand même sur le fil d'un certain nombre d'inquiétudes. Les devises, les taux, les changes, évidemment, ce sera également le facteur X de ce second semestre. À noter que ça s'est un petit peu tendu sur les rendements. Là, en ce moment, on est à 3,92 sur le 10 ans français, à 3,14 sur le 10 ans allemand, 4,65. Bon, ça reste relativement modéré, on va dire, entre guillemets, autour de la dette américaine. Oui, voilà, parce que les derniers indicateurs, et on en aura sans doute confirmation demain avec le rapport américain sur l'emploi, marquent une grande robustesse de l'économie, de l'emploi. Et puis, on a des anticipations maintenant de taux d'intérêt du côté de la Fed qui font dire à certains analystes que Kevin Warsh prépare sans doute une hausse de taux plutôt que prévu. La plupart de ces gouverneurs qui s'expriment en ce moment, en tout cas, parlent de cette hypothèse. Et c'est vrai qu'avec une économie en si grande forme, on ne voit pas comment on ne pourrait pas contenir un petit peu tout ça par un nouveau tour de vis du côté des taux américains. En attendant, il y en a un qui en profite et il n'était pas forcément attendu, c'est l'or. L'once d'or fin au-delà des 4 300 $, 4 314 $. Et c'est effectivement une petite surprise, comme tous les grands actifs risqués là en ce moment. L'or continue sa grimper. Un petit coup d'œil sur ce qui se passe du côté de Wall Street et on a une tendance mitigée. Plus 0,11% pour le Nasdaq, moins 0,61% pour le Dow Jones, moins 0,14% pour le S&P 500. Quelques prises de profit parce que le Nasdaq était en retard et Dow Jones et S&P ont signé des records historiques lors des précédentes séances, là ces derniers jours. Donc du coup, on reprend un petit peu de souffle, mais voilà, pour l'instant, le climat est toujours très dynamique sur les marchés financiers. On en parle, bien entendu, dans ce BFM Bourse avec nos deux invités du jour, Alain Pitous, Senior Advisor ESG. Bonjour Alain.
Bonjour.
Et Arnaud Morel de Promépar AM.
Bonjour Antoine.
Messieurs, donc voilà, un été quand même très très profitable pour le CAC 40 alors qu'on s'attendait quand même à beaucoup plus de volatilité et peut-être de faux pas du côté de la macroéconomie, du côté d'un certain nombre de facteurs et notamment la géopolitique. Ça, on en reparlera dans quelques instants. Pour l'instant, CAC 40 qui a l'air de profiter de tout ça, qui signe des records absolus, le DAX à Francfort aussi. Enfin, l'été est plutôt bon sur la bourse, on s'attendait quand même à bien pire. Alain.
Oui, alors je pense que l'histoire remonte un peu, quoi. C'est-à-dire que moi je regarde les indicateurs de AI4Alpha, c'est une entité qui analyse les données pour essayer de prévoir un peu ce qui peut se passer et puis regarder en détail les positionnements des uns et des autres. Et ce qu'on voit, c'est que, et ça conforte un peu des avis qu'on a depuis un moment, c'est que beaucoup d'investisseurs ne vendent pas, c'est-à-dire qu'en fait... au pire, ils font un peu le dos rond et puis ils attendent que ça se passe. Et on retrouve ça depuis maintenant plusieurs mois, c'est-à-dire qu'en fait, on accumule des mauvaises nouvelles. On a la guerre, on a l'inflation, on a des taux qui montent. Et les investisseurs, en particulier sur les actions, ne sortent pas de leur position. Donc ça fait déjà un énorme soutien, il n'y a pas ça. Et puis, semestre après semestre, trimestre après trimestre, les entreprises augmentent leur chiffre d'affaires, améliorent leur rentabilité, s'organisent pour contourner les problèmes qu'il peut y avoir sur leur chaîne de production. Alors parfois ça fait un peu mal et c'est quand c'est un peu violent comme ce qui s'est passé sur le pétrole ou certains segments de ce type-là qui ont pu être contaminés parce que les chaînes de production ont été perturbées. Donc ça peut mettre parfois un peu de temps, mais en réalité quand on regarde, et alors là les résultats de ce semestre sont extraordinaires dans ce sens-là, c'est-à-dire que aux États-Unis pratiquement, je n'ai pas les pourcentages exacts, mais je crois que on doit être à 60-70% qui battent qui battent les prévisions. Ouais. Et puis c'est pas qu'un peu. Et souvent avec des guidance qui sont pas mauvaises, avec des perspectives qui sont pas mauvaises. Quand c'est pas très bon, c'est sanctionné nettement. Hein. Et puis bah vous regardez quelques semaines après, le marché reprend. Donc on a ce soutien comme ça qui dure depuis un moment. Alors je vois bien, il y a pas mal de pessimistes qui sur la géopolitique sont inquiets, il y a de quoi. On n'est certainement pas sorti de l'auberge en Iran, on n'est certainement pas sorti de l'auberge entre les Russes et les Ukrainiens.
C'est ce que j'allais vous dire, mais en fait, est-ce que c'est pas finalement une forme de point commun qu'il y a entre chaque record historique du CAC 40, c'est qu'à chaque fois, ça se fait sur le fil d'incertitudes qui sont quand même massives. Les derniers, on était quand même dans une situation économique qui était vraiment paralysante.
Et oui, parce qu'en fait, si vous voulez, tous les professionnels, je pense que c'est Olivier, c'est ça ton...
Arnaud,
oui. Te me dira pas le contraire, c'est qu'on est quand même sous pression des benchmarks, hein, ouais. Et la moindre contre-performance sur les taux pour rattraper ça, c'est une véritable galère, hein, quand vous avez quelques centimes de retard sur votre benchmark, ça veut dire qu'il faut prendre des risques pour rattraper ça, et quand vous reprenez des risques, le moindre problème vous remet encore plus loin, ouais. Même chose sur les actions, donc les investisseurs professionnels hésitent à s'éloigner trop fortement de leur benchmark pour pas se retrouver à devoir investir n'importe comment après. Et quelquefois, c'est ce qu'on constate, hein. C'est-à-dire que, regardez ce qui s'est passé. Alors, c'est une caricature avec, je sais pas comment on prononce son nom, Aschenbrenner, je sais plus comment il s'appelle, qui est quelqu'un qui avait pris des positions très très tranchées. Ouais. Il s'est fait nettoyer, en quelques jours. Et, pratiquement tous ses titres ont remonté depuis de 25 à 30%. Donc,
il a fait l'inverse de Michael Burry.
Voilà. Lui aussi s'est pris un peu une claque ces jours-ci. Donc, les mouvements, les paris risqués sont pas très récompensés. Mmh. La pertinence et la prudence et la consistance de vos process vous permet de passer au travers de ça. Donc, pourquoi aller s'amuser à prendre des risques extrêmes, hein?
Effectivement, on va regarder la clôture à Paris parce que c'est bon, on a le fixing maintenant. Plus 0,35% pour le CAC 40. Oh, quel dommage. On clôture tout juste sous les 8700 points. 8699. Enfin, pas à bouder notre plaisir, c'est un nouveau record historique de clôture. 8742, donc au plus haut. Ce sera le prochain record à battre. L'Euronext Tech Leaders à peu près dans le ton. Hein, plus 0,28%. Et l'Eurostock 50, plus 0,39. Le DAX à Francfort qui est un petit peu peiné. Il y a deux titres qui pèsent. Notamment Siemens. Et Siemens qui est... Alors là, c'est vraiment un paradoxe parce que le groupe a plutôt signé de bonnes performances sur le trimestre. Il a même relevé l'ensemble de ses prévisions. Mais voilà, le titre est jugé un peu trop bien valorisé maintenant. Donc la nouvelle a plutôt été vendue et le titre Siemens a pesé sur le DAX et a terminé en forte baisse. L'IBEX à Madrid, plus 0,8%. On va regarder ce qui a bien marché à Paris. Tiens, mais c'est Hermès. On va voir ça avec cette fameuse thématique de la rotation géographico-sectorielle qui nous profite. Mais le luxe, hein, a bénéficié de bons petits mouvements d'achat là aujourd'hui. Alors Hermès plus 5,17, 1626 €. Kering plus 1,92, 289,75 €. Sinon on a quoi? On a Orange plus 2,6% à 16,32 €. Et Publicis plus 2,18, 99,28 €. Un petit coup d'œil sur le SBF 120, l'indice large. C'est Viridien qui grimpe le plus fort, plus 7%. 93,40 €. On a parmi les baisses du jour Compagnie de Saint-Gobain, moins 0,96%, 84,72 €. Et puis c'est l'industrie qui était plutôt vendue. Alors peut-être qu'il y a un petit sillage de Siemens, mais ArcelorMittal a perdu 0,9% à 63,86 €. Airbus, moins 1,16 à 212,45 €. Safran, moins 0,92 à 355,20 €. La plus forte baisse, elle est pour Vusion Group. Visiblement, le groupe chercherait à se vendre, est en train d'examiner un certain nombre d'options et pourquoi pas celui d'une acquisition par un éventuel repreneur. Et le titre perd 5% sur ses annonces à 126,30 €, une réaction un petit peu contre-intuitive. Généralement, ça provoque un peu de spéculation. Là, il n'y en a pas et c'est plutôt la baisse qui domine. Et puis à noter les équipementiers auto qui signent la plus forte baisse sectorielle du jour sur le SBF 120. Moins 3,5% pour Valeo à 14,53 €. On a Forvia, moins 2,97 € à 9,09 €. Je vais essayer de vous donner les volumes d'échange à Paris du côté du CAC 40. On a des séances plutôt actives, hein, malgré ce climat estival en ce moment, avec des mouvements sur les grosses pondérations. Mais on est quand même à 3,7 milliards, ce qui est relativement actif, encore une fois, pour la période. Arnaud Morel, premier part, on parlait justement de cet autre phénomène qui nous réussit à Paris, c'est la rotation géographico-sectorielle. C'est-à-dire qu'on a bien bien travaillé tout ce qui était valeur américaine et notamment la tech. On a pris beaucoup de bénéfices ces dernières semaines et on s'est recentré sur notre tissu entrepreneurial, sur le CAC 40, les valeurs, on parle souvent des valeurs ennuyeuses, les valeurs d'infrastructure, du BTP, du contracting, des belles valeurs de rendement. On est revenu un peu sur le luxe à la faveur de meilleures nouvelles là, sur le second semestre. Bon, tout ça nous profite pour le moment. Maintenant, attention à un retournement de balancier qui pourrait être très très fort si jamais la tech repart d'un coup. Et c'est peut-être ce qui se prépare du côté de Wall Street, non ? Vous ne pensez pas ?
Alors Antoine, déjà, oui c'est vrai,
oui,
sur la partie publication, on a un leadership clairement identifié, notamment en France, c'est les financières et les industriels. On voit, on a un relais, une densité qui reprend un peu plus, notamment avec les valeurs du luxe, les valeurs de food and beverage, qui reprennent également. Et là, on a des valorisations qui sont abordables. Et on revient sur des croissances organiques positives, notamment sur une société comme LVMH, un maintien et stabilisation des niveaux de marge. Et vous avez ensuite, dans la partie food and beverage, on peut regarder dans le SBF 120, un Rémy Cointreau qui fait pratiquement 30%. On commence à avoir des bonnes nouvelles après un déstockage massif, des baisses de prix. Donc ça, c'est des points positifs, avec des valos qui sont deux fois moins élevés qu'il y a 24 mois. Donc ça, c'est le point important. Deuxième point, sur la partie américaine, ce qu'on voit sur la publication avec Amazon et Microsoft, c'est qu'aujourd'hui, le marché semble accepter les dépenses d'investissement qui sont réalisées dans l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a un dynamisme très important, notamment de l'activité cloud, et qui donne des bénéfices de croissance en croissance sur la partie américaine. Donc ça, c'est les points importants. Donc on peut avoir une rotation avec une reprise des hyperscalers, c'est un point important, et qui reviennent en tendance positive. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une faiblesse aujourd'hui dans la mémoire, au même titre que Siemens. Si vous avez des publications qui sont très bonnes, avec des relèvements de guidance, mais qui sont un peu mal digérées par le marché. On le voit avec des boîtes comme Skyenix, vous avez Sandvik, pas plus tard qu'hier, vous êtes dans les puces AMD. Voilà, c'est une déception, on va dire, sur la partie performance. Le parcours a quand même été brillant sur le premier semestre, les niveaux de valo sont exponentiels. Donc ça semble logique aujourd'hui de revenir quand même sur les hyperscalers qui ont des valorisations qui se traitent en dessous de la valo du Nasdaq et bien en dessous de leur moyenne historique.
C'est ce que j'allais dire, Alain, finalement. Y en a certains sur la high-tech américaine, c'est presque de la gestion value. C'est-à-dire que quand on voit AMD qui a pas mal reculé, quand on voit aussi, et ça faudra peut-être qu'on en reparle à un moment, mais Google qui annonce quand même du remue-ménage très significatif dans son unité d'intelligence artificielle, qui met sur le marché du papier à plus savoir qu'en faire. Là, ils viennent de lancer une obligation, ils cherchent quand même à lever 25 milliards de dollars. Parallèlement, vu les capex qui sont engagés, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de s'endetter comme ça? Alors, on fait la moyenne, on se dit, oui, mais c'est peut-être intéressant sur le long terme de ceci, cela. Mais quand on voit les réactions que ça provoque, et c'est vrai qu'il y a vraiment de la pression sur Google en ce moment aussi, on se dit, pourquoi pas un redémarrage d'un coup qui pourrait nous être défavorable, mais va falloir être plus sélectif que ça, sans doute.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, en plus, on a. Google n'est pas le seul à faire des appels au marché. Hein. C'est à coût de 30 milliards de dollars.
Bien sûr.
Une large partie de ces capex maintenant est financée par des tiers, en fait. Hein. Donc, ça génère aussi des questions. On se dit, est-ce qu'ils vont arriver à financer tout ça et à rentabiliser tout ça dans les années qui viennent? Pour le moment, eux gèrent parfaitement bien leur bilan. À voir si les acheteurs de ces obligations-là seront récompensés dans quelques années, on verra. Et alors après, quand vous évoquez la rotation sectorielle et géographique, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est une rotation sectorielle au sein des techs et au sein de la chaîne de valeur de la technologie. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était assez monolithe. C'est-à-dire que vous aviez les quelques grandes valeurs de les Magnificent Seven, les GAFA, etc., qui tiraient la cote, et le reste suivait plus ou moins, quoi. Et là, et c'était très significatif parce qu'en fait, elle représentait une capitalisation énorme.
Mais on peut plus acheter de la tech en gros, quoi.
Voilà. Alors maintenant, il faut, quand vous avez aujourd'hui, vous avez les Magnificent Seven qui remontent bien depuis quelques jours avec le secteur des semi-conducteurs qui s'est fait quand même massacrer par rapport à ses plus hauts. Enfin, encore une fois, si on regarde sur longue durée, c'est pas vrai, mais sur courte durée, c'est très vrai. Vous avez des segments, vous avez le quantique qui vit sa vie, vous avez la cybersécurité qui vit sa vie, la robotique qui vit sa vie, etc. Et donc, en fait, vous avez au sein de toute cette galaxie Nasdaq, énormément de segments et de secteurs qui peuvent être arbitrés au fil du temps. Alors aujourd'hui, on revient vers les dépensiers, hein, on revient vers les Magnificent Seven, en se délestant d'un autre bout de la chaîne de valeur. Mais je crois que cet autre bout de la chaîne de valeur, c'est parfaitement géré sa croissance. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde les fournisseurs d'infrastructures, même les semis, ils savent gérer cette cyclicité. Ils annoncent quand même des marges qui sont quand même complètement dingues.
Oui,
on
est
à 85% de marge sur certaines valeurs. Donc, bon, effectivement, ça peut bouger. Les cours peuvent bouger de manière très, très puissante. Mais on est quand même sur la thématique de l'IA et ça va durer encore un certain temps. Je pense pas que tout le monde va en profiter de la même manière, mais les gagnants vont vraiment gagner beaucoup d'argent. Et c'est aussi pour ça que les investisseurs sont aussi nerveux. Ils veulent absolument pas rater le départ d'un nouveau Nvidia, d'un nouvel Amazon pour les 10 prochaines années. C'est pour ça que SpaceX a été entouré comme ça. Les gens veulent pas se retrouver en dehors d'une histoire qui les dépasserait, qui
FOMO.
Oui, c'est
Fear of missing out.
Mais c'est très clair. Alors en plus, vous ajoutez là-dessus moi ce que j'appelle la gamification de la gestion, hein, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un cœur d'actifs qui est très vous faites très attention, vous êtes sur votre S&P, etc. Et puis, vous mettez des tickets avec des options, des trucs complètement délirants. Enfin, ce qui s'est passé en Corée, c'est totalement fou.
Alors, les effets de levier.
Oui, il y en a quelques-uns qui se sont fait nettoyer.
Oui.
Mais dans le tas, il y a aussi des gens qui, avec 5-6 paris un peu différents, ont gagné beaucoup. Ils peuvent rejouer comme ça. Et on est on voit les jeunes qui jouent comme ça, hein, beaucoup. En fait, on pourrait penser qu'ils prennent des risques énormes, mais en fait, c'est sur une toute petite partie avec plein de petits paris qui sont ponctuellement, individuellement très risqués, mais qui au final offrent des perspectives qui sont nettement meilleures que l'euro million. Donc pourquoi pas jouer, hein.
Arnaud Morel, on va pas trop parler d'effets de levier et de produits bizarres et un peu
mais
bénigés.
Ils sont sur les marchés, donc faut en tenir compte.
Oui, alors ça, oui, c'est des indicateurs qu'il faut forcément regarder, mais s'il y avait justement entre cette rotation géographico-sectorielle et les espoirs de reprise peut-être pour le second semestre, est-ce qu'il y a un ou deux secteurs qui commencent à particulièrement vous intéresser, à regarder pour d'éventuelles petites lignes là sur la deuxième partie de l'année?
Justement, quand on parlait de densité, d'amélioration qui peuvent permettre aujourd'hui au marché de repartir un peu plus haut, on a l'activité software aussi. On a eu des résultats notamment de SAP et de Dassault Systèmes qui ont été quand même résilients avec des perspectives très bonnes et des valorisations qui sont également deux fois moins élevées qu'auparavant. Donc on est toujours dans les high losers. Exactement, mais après, ce sera difficilement identifiable. Je rappelle que les fameuses pépites qu'avait gagné Amazon, Google, tout ça, c'était 10 ans après l'avènement d'Internet. Donc, ce sera toujours difficile d'identifier. Il faut en mettre un peu partout, évidemment. Et on a le secteur aussi intéressant, totalement décorrélant et contrariant. Mais l'or, aujourd'hui, hein, puisque vous avez quand même un actif.
C'est la surprise de ces derniers jours. Ouais,
qui a baissé quand même, qui était à 5 600 $ au mois de février, qui a baissé de 30%. Il a moins 23 avec un beau rebond. On repasse des facteurs techniques importants. On a les valeurs aurifères qui sont également protégées par des capex très importants. Pourquoi ? Parce que vous avez une demande très dynamique, notamment des banques centrales, du particulier, notamment en Inde. Et ça, c'est un point important. Et quand on entend en plus tout ce qui se passe, notamment sur la politique monétaire japonaise, aujourd'hui, aller regarder un peu l'actif d'or, c'est quand même intéressant. Et d'aller sur des valeurs aurifères. Nous, on aime beaucoup, on a remis un petit peu Danico Eagles, donc qui est la deuxième productrice d'or mondiale. Ça semble intéressant avec une valeur qui a fait moins 40%, avec de la visibilité au même titre que l'armement ou l'intelligence artificielle. Mmh. Certes, sur des sommes beaucoup moins importantes, mais en tout cas, il y a de la visibilité, nous semble-t-il.
Alors, je crois qu'en plus, Alain, vous avez dans votre cœur une petite société minière aussi.
Non, pas spécialement.
Non, alors, j'ai mal lu en préparant. Ouais, c'est possible.
C'était pas moi. Je pense que c'était vous. Je trouve que ce qui se passe sur l'or est intéressant. Alors, en fait, la thématique des banques centrales qui achètent, en fait, quand vous regardez, en plus, nos amis chinois planquent leurs achats, donc on le voit de manière très décalée, mais ça continue d'acheter. Bon, il y a eu quelques ventes il y a quelques mois entre la Turquie, la Russie qui avaient vendu un peu d'or, mais là, c'est reparti. Et alors, il y avait le fameux carry trade japonais avec un yen extrêmement bas qui permettait de financer tout un tas d'autres achats à travers la planète.
Ouais, et ça, c'est un sujet en soi, parce que... Ouais.
Rappelez-vous, il y a deux ans, hein, ça avait, ouais. Quand le carry trade avait été un peu bousculé, ça avait fait une onde de choc à travers les marchés qui avait été quand même assez spectaculaire.
Mais c'est précisément ce qui est en train de se passer en ce moment avec les interventions des banques centrales. Ouais, on n'est pas en train de se dire waouh, voilà, attention.
Tout le monde avait cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais. En fait, ils ont fait une première opération il y a quelques jours. Je crois que c'est vendredi dernier, avec effectivement un yen qui a quand même bien remonté par rapport au dollar. Avec deux choses, moi, je trouve très intéressantes. La première, c'est que les Américains et les Japonais sont intervenus ensemble. Ouais. Ce qui est quand même une bonne nouvelle parce que moi, ce qui m'inquiétait un peu dans le schéma actuel, c'était que les banques centrales vivent leur vie chacune de leur côté. Et ça, c'est jamais très, très bon. Là, il y avait quand même une forme de coordination. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire quand même qu'à un moment donné, le bon sens finit par l'emporter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'était, je trouve, très intéressant, et je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle l'or a commencé à remonter comme ça, c'est que nos amis américains n'ont pas fait ça avec le dollar. Ils ont fait ça avec... leur intervention a été faite avec l'euro. Et c'est une manière de dire, nous, on ne veut pas non plus faire baisser nos actifs en dollars.
C'est ça.
Donc, ouais. Bon, il s'est tombé sur les Européens.
Oui, bon, ben voilà.
Peut-être pas autant, mais enfin, bon, en tout cas, c'est nous qui avons pris sur ce truc-là. Mais ça traduit quelque chose, ça traduit que les Américains sont quand même un peu embêtés avec une éventuelle faiblesse du dollar. Et les marchés vont tester ça. Hein. Donc, à un moment donné, on va revenir là-dessus. Mais en attendant, les investisseurs longs qui ont la capacité de faire de l'or dans leurs actifs, ne se privent pas de le faire et ont accéléré le mouvement. Donc, et on voit beaucoup d'acteurs sont revenus sur l'or en quelques jours. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Les flux sur les ETF or ont fortement remonté. Donc voilà, c'est une thématique qui est intéressante. Alors, je dirais pas en mettre 20% évidemment d'un actif, mais avec ce qui s'est passé depuis le début d'année, ça c'était un peu quand vous disiez super, je vais faire 10% d'or. Bon, les gens vous regardent un peu bizarrement, on vous regarde moins bizarrement aujourd'hui.
Oui.
Même chose sur l'argent. Qu'est-ce que ça reste quand même une matière première aussi qui est utilisée dans plein d'actifs, dans plein d'activités. Donc voilà, je pense que c'est une thématique intéressante. Après, moi, dans les thématiques que je regarde, mais c'est des thématiques longues, hein, il y a tout ce qui est autour de l'énergie qui reste d'actualité pour l'IA, mais aussi parce que on voit bien qu'il faut essayer de faire moins d'émissions de CO2. Donc,
et puis que l'industrie au niveau mondial est en cours d'électrification massive. On en a besoin.
Un driver chinois qui est extraordinaire. Mmh. Et aujourd'hui, on arrive avec des rentabilités énormes. Donc tout ce segment-là, l'énergie verte, le solaire en particulier, moi je pense que c'est vraiment mon dada. Je pense que ce truc-là, sur très long terme, c'est quelque chose d'intéressant. Après, moi j'aime bien la robotique. Je pense que l'IA permet une accélération très forte dans ce segment-là.
Alors, Elon Musk, lors de la présentation des résultats de SpaceX, disait que son nouveau challenge, c'était d'aller construire des usines sur la Lune avec des robots dedans.
Voilà.
On attend toujours les taxis volants, mais là, il nous prévoit quand même.
Mais ça va venir.
Mais c'est pas idiot.
Il y a des gens qui sont très en avance avec des choses un peu un peu bizarres. Puis à côté
les robots dans les usines chinoises, ils sont déjà là.
Et puis vous regardez Amazon aussi qui est en train de s'équiper de manière très forte. La cybersécurité, quand on voit ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, je pense que autour de ça, il y a vraiment un intérêt très fort avec des acteurs qui sont extrêmement organisés autour de ça. Les batteries, parce que si vous dites énergie verte, il faut bien faire de la batterie. Donc vous voyez, il y a quand même quelques segments qui peuvent... Alors évidemment, quand le marché, c'est des segments avec un bêta assez fort. Hein, c'est-à-dire quand le marché fait 1, ils peuvent avoir tendance à faire 1,20. Et même chose à la baisse. Hein, donc, faut l'avoir à l'esprit. Mais en cumulé sur quelques années, c'est des segments qui peuvent être très intéressants. Donc, je crois bien à ce genre de choses. Encore une fois, faut pas en mettre 50%, mais d'avoir des poches sur des thématiques de ce type-là peuvent être intéressantes.
Mais justement, ce qui peut aider Arnaud Morel, c'est beaucoup de valeurs. Alors, je parle souvent des valeurs ennuyeuses, BTP, contracting, infrastructure, etc. Elles sont concernées au premier chef par ça. Elles prennent des couleurs IA, finalement. Si on regarde bien les Schneider Electric qui s'est envolé à cause de ça, même Vinci qui participe, qui a une vraie expertise sur le BTP à destination des data centers. Là aussi, l'ingrédient est en train de doucement se diffuser à d'autres secteurs qui sont justement sur une phase de reprise et d'intérêt des investisseurs.
Ça prend d'autres pans de la côte. Schneider, c'est le parfait exemple. Hein. C'est sur l'activité climatisation au sein des data centers. On revient 4 ans en arrière, ça représentait 1% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est quasi 20%. Au même titre que l'activité Legrand sur l'activité data center qui représente 18%. Donc oui, ça va se diffuser. Et c'est là où il faut aller regarder les gains de marge potentiels qui sont réalisables dans les prochains mois, les prochaines années, sur cette activité-là et sur la construction des data centers, clairement.
Bon, donc les thématiques autour de l'eau, hein, c'est quelque chose qui va être
l'eau, l'énergie,
qui va être central dans les 10 ans qui viennent. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on n'ait pas, on devrait avoir en France.
Ouais.
On aime bien avoir des ministères pour plein de trucs. Il y avait un ministère des loisirs pendant un moment. Ça serait quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de l'eau à une échelle un peu sérieuse, quand même.
On a un ministère du plan.
Oui, on a un responsable du plan. Ouais.
Ouais, mais au milieu de tout ça, on va terminer là-dessus parce que ça va rester une des problématiques de cette deuxième partie d'année. Au milieu de tout ça, il y a les taux parce que toutes ces entreprises et toutes ces infrastructures et toutes ces dynamiques de développement, elles sont dictées par le niveau des taux. Et là, au point où on en est, on a un Kevin Warsh, qui est peut-être allé un petit peu vite, un petit peu fort sur sa première apparition pour une décision de politique monétaire, et qui là se retrouve vraiment le dos au mur avec des taux qu'il va devoir faire grimper à un moment donné.
Oui, alors lui, il est assez mal parti, quoi, en fait. Hein, si vous regardez, il a pris deux, trois décisions, et puis il a fait une conférence de presse, et les taux ont commencé à monter au moment où il parlait, et ça s'est dégradé partout quand il parlait. Donc c'est vraiment pas bon. Je pense qu'il va falloir qu'il redresse le tir très rapidement. Le problème pour redresser le tir, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse quelque chose d'assez fort. Je le vois pas baisser les taux dans les circonstances actuelles, parce que le gars, il nous a quand même dit oui, bon, l'inflation est au-dessus de 2% depuis un moment, et puis il faudra que ça revienne un beau jour à 2%. Mais
on va laisser faire le marché.
Ouais, en gros, c'était ça, son truc. Donc ouais. On va laisser faire les avions américains en Iran. Ça va ranger les choses tout de suite. Voilà. Donc effectivement, il va être peut-être contraint de bouger un peu dès septembre. Entre les deux, il va y avoir Jackson Hole, où ils vont se retrouver, tous les banquiers centraux. J'étais inquiet il y a quelques semaines, l'intervention intelligente faite autour du yen m'a paru quand même un peu montrer que peut-être que nos amis américains savent qu'ils ne peuvent pas être tout seuls pour gérer l'ensemble du système monétaire international.
C'était symboliquement important.
Quand même peut-être pas trop mal, donc croisons les doigts pour qu'ils prennent des décisions.
Le mot de la fin, Arnaud Morel, il faut quand même se faire à l'idée d'un univers de taux qui va rester quand même très tendu pour cette fin d'année.
La dimension énergétique aujourd'hui qui est importante. Et après, il faut que le marché s'habitue aussi à la nouvelle communication. Sans forward guidance de Monsieur Warsh, clairement, c'est le point. Il faut qu'ils appréhendent, qu'ils s'éduquent sur ces niveaux-là. On est rassuré tout de même avec un Monsieur Bessent, qui est quand même secrétaire du Trésor, et quand même manie bien la barque aujourd'hui, et prend les devants sur la communication, et notamment avec Monsieur Ueda, le patron de la Banque Centrale Japonaise.
Scott Bessent, qui fait même partie de l'équipe qui annonce les trucs autour du détroit d'Ormuz.
C'est
assez étonnant, et symboliquement, il y a peut-être un message caché là-dessus.
Oui. Non, mais
c'est peut-être rassurant.
Je pense qu'ils font quand même... c'est un put Banque Centrale qui reste quand même sur les grandes tendances. Après, je pense qu'il faut quand même se méfier de ce put Banque Centrale. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, oui, si un segment prend un carreau de 40-50%, la Banque Centrale interviendra. S'il y a un carreau sur, je dis n'importe quoi, le quantique, les semi-conducteurs, je sais pas quoi, la Banque Centrale, à partir du moment où ça touche pas trop les gros indices, elle va pas bouger.
Hein. Alain Pitous, Senior Advisor ESG.
Eh oui, mais jusqu'à une certaine limite.
Et Arnaud Morel, premier parrain. Merci d'avoir été avec nous pour commenter cette séance du jour. Donc plus 0,35 pour le CAC, 48 699 points en clôture. Nouveau record de clôture pour l'indice vedette de la Bourse de Paris et nouveau record en séance à 8 742. Restez avec nous dans un instant, le 18h éco. On va reparler de Google, on va parler du secteur de la défense et puis on va parler de tourisme. La saison est-elle sauvée côté français? Il y a quelques chiffres très intéressants dont on va vous parler. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.